Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Crime et justice.
Félix Séguin est avec nous, il est journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Félix, bonjour.
Bonjour Benoît.
Bon, ben c'est sur toutes les lèvres Jean Charest qui a renoncé hier à la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Es-tu étonné?
Ben, écoute, si je suis étonné, je trouve que ce qui est étonnant, c'est peut-être ce qu'il revendique comme raison pour lesquelles il décide de passer son tour, et ce sera probablement le dernier tour qu'il pourra passer, c'est-à-dire des règles un peu trop contraignantes quant au temps qui lui est imparti pour recruter des membres, ce qui rendrait impossible de former une organisation là pan-canadienne capable de survivre à une élection dans toutes les provinces et aussi de lui de faire le plein en sorte d'appui puis de vendre assez de cartes de membres pour le soir de l'investiture venue remporter cette course-là. Alors que tout le reste plane sur Jean Charest, que ce soit l'une des seules raisons qui motive son retrait d'une course où il ne s'était même pas annoncé, ça apparaît court, peut-être un peu, en fait. Voilà.
Ouais, il y a toujours PLQ Inc. Hein, qui est à lire sur la question de Jean Charest.
Oui, il faut pas manquer, il faut acheter ça absolument.
C'est pas mal. Je trouve quand même. Ouais, c'est drôle parce que j'ai l'impression que tous ceux et celles qui ont la chance d'interviewer Jean Charest n'ont pas lu le livre.
Je sais pas si mon collègue Patrice Roy a lu le livre. Ce que je sais, c'est que Jean Charest lui a accordé une longue entrevue qui, selon la Société d'État, a été diffusée dans son intégralité. Et lors de cette entrevue-là, on dirait que Jean Charest est venu renverser le fardeau de la preuve. C'est un peu comme ça que plusieurs l'ont perçu. Je te relate quelques passages parce que on lui a beaucoup parlé, faut bien le dire, dans l'entrevue de l'enquête mâchurée et puis de son financement au Parti libéral du Québec qui était lié à du financement sectoriel, du financement illégal, ce de quoi il s'est défendu que ça se passait alors qu'il n'était pas au courant et qu'il a changé les règles quand il a su que ça se passait. Maintenant, il y a ça, mais il y a d'autres choses. Il y a l'enquête mâchurée, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, elle vise Jean Charest et son grand ami Marc Bibeault, encore là pour des questions d'abus de confiance, de trafic d'influence. Dans le fond, c'est assez simple, c'est don au Parti libéral contre contrat, c'est un peu ce qu'allègue l'enquête mâchurée, et c'est là où Jean Charest est un peu pris. Et là, il a pour la première fois depuis 6 ans, demandé lui-même, parce que c'est son avocat, Maître Michel Massicotte, qui l'avait fait pour lui vendredi dernier. Il a demandé lui-même aux policiers là, de passer à autre chose parce que c'était pas raisonnable, les délais. Il a cité, et là, il avait quand même bien appris la leçon, il a cité les déboires de l'UPAC et de long en large. Et c'est vrai que l'UPAC...
Il a raison. Là-dessus, ben oui. Il a raison. Ça fait trop longtemps, là. Là, pour porter des accusations ou arrêter d'insinuer qu'il y a anguille sous roche à propos de Jean Charest puis Marc Bibeault, un ou l'autre, là.
Ben, tu sais, en fait, ce qu'il cite et ce qu'il met sur la place publique, il a raison de le faire. C'est-à-dire les affidavits. Il parle des affidavits, exemple, qui ont été rédigés pour en venir à l'arrestation sans accusation du député Guy Ouellette. 1. 2, il parle de ces mêmes affidavits qui ont été rédigés pour l'arrestation de sa vice-première ministre de l'époque, Nathalie Normandeau. Alors, il vient jeter le doute sur la manière dont la police, dont l'unité permanente anticorruption, rédige ou rédigeait dans le passé ces affidavits pour pouvoir, comme il l'a dit lui-même, aller faire un peu une partie de pêche puis aller accuser des gens et que l'accusation, au final, ne tienne pas devant le tribunal. Alors, il a parlé de ça de long en large en disant « Permettez-moi de... » Au fond, « Permettez-moi de douter peut-être de la crédibilité de ces affidavits-là qui me concernent. Hein? Mmh. C'est comme si tu achètes dans une chaîne de restauration rapide un hamburger, puis une fois sur deux, t'as pas la bonne commande, c'est pas ce que t'as demandé. Ben, ça risque qu'au final, à 50 % du temps, on se trompe de commande, donc applique ça à un système de justice, 50 % du temps, on se trompe dans ce qu'on allègue devant le tribunal. On peut pas, ça peut pas fonctionner comme ça. Alors, il a pas tort de faire ça. Il a cité également tout ce qui s'est passé avec les dirigeants de l'UPAC. Il a cité la démission de Robert Lafrenière le jour de la dernière élection générale, la suspension de Martin Prudhomme. Il a évidemment et abondamment cité que l'UPAC elle-même faisait l'objet d'une enquête. Alors, c'est une soirée difficile pour les hommes et les femmes du commissaire à la lutte anticorruption, Frédéric Gaudreau, parce que là, ils se sont fait mettre sous le nez un paquet de vérités qui, certains diront, existaient peut-être avant le règne de Frédéric Gaudreau et qui sont en train de changer maintenant, mais tout de même, qui ont existé et qui ne leur fait pas une belle jambe.
Hmm. Et pendant ce temps, le bureau, il y a Lino Saputo qui a envoyé quoi, une mise en demeure à l'équipe d'enquête?
Oui, Lino Saputo a décidé de passer à l'attaque, mais en tout cas, il est sur la défensive, ça c'est au minimum, parce qu'il a annoncé qu'il avait mandaté ses avocats pour envoyer une mise en demeure aux deux journalistes qui ont fait le reportage sur ses liens avec la mafia, puis avec le clan Bonanno aux États-Unis. C'est ça. Aujourd'hui, il a carrément dit qu'il était pour envoyer une mise en demeure. C'est pas fait encore. Alors, quand on envoie une mise en demeure, on se réserve toujours le droit de poursuivre aussi après. Alors, c'est ce qu'il a fait.
On va voir ça. Il y a un mot avant qu'on se quitte, Félix, là, sur ce livre d'histoire qui attribue les attentats du 11 septembre à qui?
Ah, mon Dieu, à la CIA, wow. Ça, c'est mes préférés, c'est Conspiracy Watch, le site français qui a déniché cette nouvelle-là, manuel scolaire, c'est un manuel d'histoire, l'histoire du 20e siècle en fiche, si tu veux, là. Alors, ça a été publié fin 2019 aux éditions Ellipse, et pour tout dire assez clairement, la page 204, un ouvrage qui est destiné aux étudiants de Sciences Po. Parle et évoque les attentats du World Trade Center, et je te cite ce qu'ils disent. « Cet événement mondial, sans doute orchestré par la CIA, pour imposer l'influence américaine au Moyen-Orient, touche les symboles de la puissance américaine sur son territoire. Ma foi, que cette version-là se retrouve dans un livre d'histoire comme ça. » C'est à ne rien comprendre. Évidemment, extraordinaire.
Ouais. Et il y a aussi la page où on parle du Père Noël. Hein. Ça, c'est fort dans l'histoire. Félix Séguin, merci. On se reparle demain.
Salut.